Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, j'accueille le chanteur, auteur, compositeur et journaliste brésilien Chico César. On prononce comme ça ?
Chico César.
Chico César.
Qui, en près de 30 ans de carrière, est devenu une figure centrale de la musique populaire brésilienne. Et Chico César est aussi un artiste engagé. Alors, il sort un nouvel album, son 10e album studio, Vestido de Amor.
Vestido de Amor.
Et c'est une belle occasion, donc, pour le rencontrer. Bonjour Chico César et bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour Anne et... todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Ouais, c'est un plaisir d'être là avec vous.
C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir et à l'occasion de la sortie de cet album, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'albums que je ne connaissais pas, que j'ai réécoutés sur, grâce maintenant aux plateformes de streaming. Le son ne vaut pas un bon album, mais au moins ça permet de redécouvrir. Donc, nous n'allons pas refaire toute ta biographie, mais pour avoir quelques repères et puis faire un petit peu connaissance quand même et que nos auditrices et auditeurs puissent faire connaissance. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots de l'endroit où tu es né géographiquement et est-ce que ça a une importance particulière dans qui tu es aujourd'hui?
Ok, eu sou nascido numa pequena cidade.
Je suis né dans la campagne, qui a 30 000 habitants aujourd'hui. Ça s'appelle Catolé do Rocha, dans l'état de Paraíba. C'est au nord-est du Brésil. Et c'est très loin de la mer.
Mm-hmm. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de cette région, non?
Oui, du nord-est, si, si.
J'ai l'impression que la plupart des artistes qui m'intéressent au Brésil viennent toujours de cette région, non?
Je m'en doute, hein, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe par là?
Au nord-est... tem uma tradição cultural muito forte por causa da presença de uma herança.
No Nordeste, il y a cette spécificité de la culture brésilienne parce qu'il y a beaucoup de tradition des indigènes locaux, des Africains qui sont venus là-bas comme des esclaves, et aussi des Européens, surtout des Espagnols et des Portugais.
E dos mouros.
E dos mouros, des arabes, pardon, que ele avait dit aussi.
Ok. Et donc, la fin de la question, c'était, est-ce que ça a une importance particulière sur qui tu es aujourd'hui?
Tem uma importância especial, particular, no que você é hoje?
Ser nascido aí?
Essa...
Completamente.
Oui, le Nordeste, c'est le berceau des grands noms de la culture brésilienne, des chanteurs, comme il a cité Dorival Caymmi, João Gilberto, surtout Luiz Gonzaga, qui c'est le roi du forró du Baião, qui a très influencé à lui et qui ça devenu très important dans sa carrière et tout ce qu'il y a aujourd'hui.
Ah oui, donc il y avait un berceau musical déjà.
Oui. Nord-Est, c'est très fort.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu la place de la musique dans ta vie lorsque tu étais enfant?
Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 8 anos de idade.
Ouais, j'ai commencé à bosser très jeune, à l'âge de 8 ans, dans un magasin de disques et de livres. Et là, j'avais l'opportunité d'écouter et de lire beaucoup de choses. Et c'est là qu'a commencé cette influence et cet intérêt. Pour la musique.
Précoce alors.
Précoce.
Oui.
À 8 ans. Il a travaillé de 8 ans jusqu'à 15 ans dans ses magasins de disques et de livres.
Et c'était donc que de la musique brésilienne ou est-ce qu'il y avait d'autres choses?
Non, toute la musique du monde.
Ouais, il y avait un peu de tout. Il y avait de tout de la musique du monde dans là. Des choses traditionnelles du Brésil, comme banda de pífanos, qui c'est une chose très traditionnelle là-bas. À Kraft, à rock, à rap.
Kraftwerk, oui.
Ouais, Kraftwerk, ouais.
Donc une belle opportunité de s'enrichir et avec beaucoup d'ouverture, en fait.
Vraiment, vraiment.
Et alors, donc jusqu'à 15 ans, et du coup, la musique, à quel moment tu commences à la pratiquer toi-même?
Com 8 anos, eu já começava a cantar
À 8 ans, il a commencé déjà à chanter dans des concours qui s'appelait Programme de Calor, c'est-à-dire c'est un petit festival de gens qui ne sont pas professionnels.
Et à 9 ans d'âge,
il y a 9 ans, il avait déjà formé son premier groupe qui s'appelait Super Son Meeting. À 12 ans, il a fait sa première musique, que c'était un samba. Et avec cette chanson qu'il a écrite à 12 ans, il a joué dans un festival à 13 ans, 14 ans. Et 13 ans, il a gagné sa première guitare acoustique. Et c'était un festival déjà pour des grands, pour les gens. Enfin, c'était un grand festival là ouvert. Voilà, et finalement, à 14 ans, il a déjà formé son premier groupe des adolescents, de ses copains. Il a formé sa première formation du groupe musical.
Et ce groupe, pardon, s'appelle Groupe Ferradura.
Et le groupe s'appelle Ferradura. Ferradura, ça veut dire fer à cheval.
Pourquoi?
Pourquoi c'est fort.
Parce que c'est fort, ça protège le cheval et c'est lié à la terre. C'est-à-dire il y a un symbolisme très fort.
Et je crois qu'en France, il y a une superstition que ça porte chance aussi.
Que ça porte chance, ouais.
Vous aussi?
Dans le monde entier, au Brésil aussi.
D'accord. Et donc, comment on en arrive à l'étape professionnelle d'enregistrement parce que je crois qu'il y a eu du journalisme au milieu de tout ça.
Oui.
Parce qu'en fait, quand j'ai lu la biographie, j'ai cru que tu étais vraiment partie dans le journalisme. Et puis, il y a eu un accident et finalement, tu es partie dans la musique. Alors qu'en fait, là, je comprends que la musique était là depuis quasiment toujours, peut-être depuis tout jeune. Et alors, comment ce journalisme est arrivé dans l'histoire?
Ah, ok. Au journalisme,
voilà, et il a compris qu'il ne pouvait pas vivre encore de la musique.
Oui, c'est toujours difficile.
Voilà,
oui.
Et il a choisi ce métier du journalisme parce que c'était aussi d'écrire ses idées, ses paroles, de mettre. C'est quand même un début d'écrire ses chansons. Et le journalisme là, lui permettait de vivre pour après pouvoir faire la musique.
Mais est-ce qu'il y avait une idée en allant vers le journalisme juste d'écrire ou est-ce qu'il y avait déjà une conscience politique et une envie aussi de participer de cette façon-là?
Primero, foi a sobrevivência.
D'abord, c'était la survie, pour vivre. Voilà.
La survie.
Et après.
Et primeira sobrevivência, mas também havia uma ilusão.
Il y avait une illusion qu'il pourrait contribuer pour améliorer le monde, quoi.
Il y avait
une illusion.
Ah, une illusion?
Ouais.
D'accord. Donc après l'illusion est tombée. Si je comprends bien.
Oui. Parce que le journalisme est un negócio, est uma empresa, é business.
Ouais, parce que le journalisme c'est un business. Alors, c'était quand même une illusion qu'elle avait de pouvoir aider par là.
Bon, on va reparler un peu de ça, je crois. et j'ai lu que tu avais fait partie d'un groupe de poésie d'avant-garde. Qu'est-ce que c'était ce groupe de poésie d'avant-garde et qu'est-ce que tu y faisais?
Jaguaribe Carne.
Ouais, c'était le groupe Jaguaribe Carne.
Jaguaribe Carne.
De carne, c'est ça.
Jaguaribe
Carne.
Carne.
C'est le groupe Jaguaribe Carne, ça veut dire. Jaguaribe, c'est un mot indigène. C'est une rivière, viande, on va dire comme ça, parce que carne, c'est viande en portugais.
Et, un groupe com o qual eu me juntei em João Pessoa, era um grupo.
C'était pour la musique, poésie, musique aléatoire.
Poésie concrète. Musique aléatoire. Experimentos. Carne tem a ver com o movimento antropofágico.
Ah, la carne, elle a une liaison avec le mouvement antropofagique.
De comer tudo, déglutir e devolver ao mundo.
De manger, digérer e redonner ao mundo.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres expériences dans d'autres domaines artistiques?
Com o tempo,
dans son parcours, il a écrit aussi des chansons pour le théâtre, mais toujours dans la musique.
Ah oui, toujours la musique.
Ouais.
Et enfin, si tu devais citer trois ou quatre rencontres qui ont été déterminantes pour toi.
O primeiro encontro, creio, que é o encontro com a loja de discos.
O primeiro encontro c'était avec le magasin de disques.
Oui. Com 8 anos de idade.
Com avec 8 ans, ele avait 8 ans.
O segundo encontro é com um homem.
Le deuxième rencontre c'était Osmar, avec un monsieur qui s'appelle Pedro Osmar.
Osmar.
Que c'était do grupo Jaguaribe Carne.
Porque Pedro me mostrou que...
Parce que Pedro me a montré que la musique était plus que l'entretenimento.
Ela é uma experiência, traz modos de...
Ela é uma experiência, ela porta aussi un moyen de toucher les gens. Et le troisième rencontre, je peux dire que c'était, j'étais dans un voyage en Espagne, je partais de Barcelone pour un autre endroit en Espagne, et il a entendu Salif Keita pour la première fois. Et là, il s'est dit « Waouh !»
Et ça, c'était il y a combien de temps?
C'était en 91, c'est 91.
91.
91.
Porque aí...
Parce que j'ai compris que le parcours de Salif Keita, ça ressemblait à son parcours aussi, parce qu'il venait d'une petite communauté du Mali, de l'intérieur du Mali. Il faisait une musique très puissante, très énergique, avec une bande, avec guitare, avec voix. Et là, il s'est dit, moi aussi, je peux faire ça. Parce qu'il était, jusqu'à ce moment, il jouait acoustique. Et il était Louis Tossol.
D'accord.
Voilà, on arrivait au point quand il a pensé, quand je rentre au Brésil, là je laisse tomber le journalisme et je vais me dédier spécifiquement à la musique, complètement à la musique.
Ah oui, il y a une grosse bascule.
C'est-à-dire que le gros déclic, c'était Salif Keita aussi.
Essa pergunta foi muito importante para mim.
Ele te remercie por cette question parce qu'il n'avait jamais posé cette question de ces trois rencontres, quatre rencontres dans sa vie qui a beaucoup changé pour lui. Il te remercie. Il te remercie.
Bon, ben, en tout cas, c'est agréable à entendre. Et donc, Salif Keita, en plus, il est sur ce nouvel album. Hein, donc, on va en parler, mais c'est la première fois, non?
C'est la première fois que vous grave avec Salif Keita. Oui, oui. Oui, c'est la première fois qu'ils enregistrent ensemble.
Oui.
D'accord. Vous aviez déjà travaillé musicalement, mais pas enregistré.
Non, já tivemos encontros rápidos.
Eles avaient se rencontré par hasard ici, au Brésil, en France, au New Morning. Mais là, c'était la première fois vraiment qu'ils ont se rencontré pour enregistrer, pour être ensemble.
Alors, à quel moment ou quels événements font que ta conscience politique commence à se forger? Parce que tout ça, ça avance en parallèle.
Eu penso que quando eu tinha 5 anos de idade,
je pense que em 69, quando meu frère Louis a été en prison parce qu'il était engagé contre la dictature du Brésil. C'était la dictature à cette époque.
Por ser do movimento
dans le mouvement estudantil. Il était dans son frère, il était un militant estudantil. D'étudiant.
Ah, étudiant.
Ouais.
Ah.
Oui.
Mais tu étais tout jeune, non?
Non, c'était son frère.
Meu irmão,
oui.
Mon frère.
Son frère qui est 15 ans.
15 ans
plus
âgé.
15 ans plus âgé que lui.
Oui.
C'était son frère qui a donné cette première rencontre avec cette militance, le mouvement étudiant.
Obviamente, eu tinha apenas 5 anos. Essa consciência veio depois. Ouais,
parce qu'il y avait 5 ans, il a se rendu compte que cette conscience a venu. Il a se rendu compte après. Et c'était le moment que la police est venue à sa maison, qui a fouillé des choses, pour amener son frère en prison.
Et toi, tu avais 5 ans?
Et il avait 5 ans.
Ah oui, mais évidemment, c'était marquant, quoi. Ouais. Ça a été.
Muito.
Oui.
A beaucoup.
Et donc après?
Et depois?
Non, à partir desse momento,
à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était très fort, c'était très présent, et pour être descendant noir, pauvre, être loin de la, c'était dans un petit village, enfin, tout ça, ça, et à partir de ce moment, ça a réveillé, ça a commencé à se réveiller et donner conscience de l'importance qu'il pourrait avoir.
J'ai lu « Fils de paysan sans terre », c'est ça? C'est correct?
Sans terre.
Fils de paysan sans terre.
Oui.
Voilà. Est-ce que tu peux nous... Je connais un peu, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour nos amis ici en France qui ne connaissent pas forcément ce que ça signifie?
Os sans terre.
Ouais, les gens qui n'ont pas de terre, c'est pas de terre, c'est que ce ne sont pas propriétaires. Ils travaillent pour des gens qui sont propriétaires parce qu'au Brésil, il n'y a pas vraiment eu une vraie réforme dans ce secteur-là, dans l'agro. Vous voyez, dans l'agriculture, et là, les gens profitaient, les riches, on va dire, les seigneurs coloniaux profitaient, ils venaient d'autres gens qui n'avaient pas de terre pour bosser pour ces gens. Et ça a réveillé à lui cette conscience.
Et comment se sont traduits tes engagements? Est-ce que c'était toujours en musique ou est-ce que tu, au cours de ta vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as aussi mené des actions en plus de la musique?
Et au parti.
Ouais, quand j'étais jeune, je participais au mouvement étudiantil, dit-il, dans le mouvement là, des étudiants secondaristes, c'est ça. C'est les étudiants qui sont comme on dit ici en France, qui sont pas au collège,
au lycée.
Secondariste, oui. Voilà, tout à fait.
D'accord.
Merci.
Et ensuite, ça a été essentiellement au travers de la musique.
Si, et con la musique, eu posso apoiar.
Oui, à travers sa musique, il peut aider les noirs, les femmes, toutes les classes minoritaires, comme les indigènes. Enfin.
Colocar minha música para apoiar esses movimentos. Homeless, sans tête.
Oui, et sans papier.
Les SDF.
Oui.
Les sans-papiers, les SDF, tout ça. Et qu'il a vu qu'il y avait un potentiel qu'il pourrait aider à travers sa musique.
Donc, Vestido de Amor, excusez-moi pour la prononciation.
Vestido de Amor.
Très bon.
Voilà. Donc, c'est ton 10e album studio. Et tu as souhaité y creuser, j'ai lu, le sujet du panafricanisme. Cette fois, du point de vue de la diaspora. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce choix?
Eu penso que uma das feridas do mundo é o colonialismo.
Eu penso que um de grandes maladies do mundo
e o imperialismo.
C'est le colonialisme et l'impérialisme.
Então, senti que gravar um disco na França.
Alors, j'ai vu dans cette opportunité d'enregistrer en France l'opportunité de rencontre des gens, des Africains, des Français, des Brésiliens qui habitent en France.
Mas também com franceses para fazer um disco potente, trazendo luz.
Pour apporter beaucoup plus de lumière à cette question.
J'ai lu qu'il y avait un lien aussi de ce nouvel album avec le grand compositeur brésilien, je vais vous laisser prononcer.
Pixinguinha.
Est-ce que tu peux nous le présenter, nous expliquer?
Há, na verdade, uma coincidência. Há 100 anos.
Il y a une coïncidence qui, à 100 ans en arrière, Pixinguinha était aussi à Paris et qui a rencontré les afro-diasporiques, des gens qui viennent de là.
Et au même temps, il y avait une présence très forte d'afro-diasporiques d'Amérique du Nord, du Caribe, qui étaient tous ici faisant musique.
Et comme lui, maintenant, c'était l'opportunité de rencontrer. Il voit dans tout ça une grande coïncidence.
O meu disco agora reúne afro-diaspóricos que também estão en Paris en ce moment.
D'accord. Donc sur cet album, tu as invité deux grands artistes liés au continent africain, Salif Keita et Ray Lema. Tu nous en as déjà un petit peu parlé. Je voulais te demander pourquoi eux et comment se sont passées la création de ces titres.
Essas duas músicas eu compus durante a pandemia.
Ouais, ces deux chansons, moi j'ai écrit, c'était moi qui ai écrit, c'était lui qui a écrit, Chico César, je parle à son nom,
à sa place.
Et il a écrit pendant la pandémie, et quand il a écrit ces chansons, quand il a vu Sobre Humano, il a déjà pensé tout de suite à Salif Keita.
Peut-être on traduit ce que ça veut dire en français, Sobre Humano.
Sobre Humano, c'est surhumain. C'est
surhumain.
Au-delà de l'humain.
Oui.
Sobre humano.
Oui.
Et il a pensé déjà à Salif Keita, à là. Et quand il a écrit Foro,
Xangô
Foro Yai,
oui.
Il a pensé à Ray Lema, qui ça rappelle un peu la
rumba congolaise,
oui. Congolaise,
voilà.
Qui c'est tout à fait les racines de Ray Lema.
Tout à fait.
Ouais, mais quand on s'est rencontré au studio et qui ont pour l'ordre d'enregistrement, Salif Keita a donné son il a écrit aussi, il a mis des mots dans sa langue et Ray Lema aussi. Ils ont fait ils ont rajouté des choses dans la chanson.
Ah oui, ils ont vraiment participé.
Ils ont participé au process créatif à l'ordre de l'enregistrement.
Bon, très bien. Alors donc, oui, j'avais envie qu'on parle de quelques titres. On peut pas... En fait, ils sont tous intéressants, et musicalement, et pour les textes. On n'a pas le temps de tous les faire, mais il y en a quelques-uns sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Et en premier, Bolso Mignon, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, musicalement, qui est super accrocheur, et en plus, qui a un texte d'actualité, on peut dire.
Bolsominions
c'est basiquement une chanson sur les gens qui suivent Bolsonaro. Mais c'est les gens qui suivent Bolsonaro comme des bétails, là, à ce moment, au Brésil.
C'est une chanson qui les gens qui
sont adeptes du néofascisme, de la droite, de l'extrême droite, ils ont rencontré dans cette idée du bolsonarisme, la force de montrer son visage.
Ah oui, ça les a désignés.
Ça les a crédités, en fait. Mm-hmm. Ça a donné. Ils croyaient que c'était permis de tout montrer, de montrer son vrai visage.
Para mim, musicalmente, é como se fosse uma música de. É um reggae de protesto. Como se fosse uma música do Clash. A banda Clash.
Il voulait montrer dans cette chanson, pas que seulement les mots forts, son non-accord à la politique de Bolsonaro, son désaccord.
Por isso também a presença da cora africana para mostrar que não são apenas palavras.
Mais aussi, musicalement, toutes les sons, comme la cora qui est jouée par.
Sekou Kouyaté.
Sekou Kouyaté, qui est un très bon musicien africain, qui habite à Marseille, qui vient de Marseille, je crois, non, qu'il habite à Marseille. Et il voulait montrer aussi cette force dans la musicalité, pas que dans les paroles.
La musique já é conhecida no Brasil.
La musique, elle est déjà connue au Brésil.
Porque eu já publiquei no Instagram. Já toquei em concertos.
Parce qu'il a déjà publié sur les réseaux sociaux.
Cette chanson,
Bolsominion.
Oui, d'accord.
Il a déjà chanté dans des concerts, pardon.
E os seguidores de Bolsonaro já escreveram nas minhas redes sociais contestando.
e les bolsominions, que são esses secteurs de Bolsonaro,
ont
déjà lui attaqué sur les réseaux sociaux en protestant, en disant des mots méchants, on va dire comme ça. Il a reçu même une espèce de censure, là, mais dans la municipalité d'où il vient, de João Pessoa, là, da Paraíba, de Paraíba, les gens de la municipalité ont mis comme une espèce de censure sur cette chanson.
Et quel sentiment ça t'inspire d'avoir été dans les étudiants qui luttaient, d'avoir vu ton frère engagé et aujourd'hui de voir cette situation au Brésil et pas qu'au Brésil donc?
Ah, eu tenho um sentimento de esperança guerreira.
J'ai un espoir de j'ai un sentiment de espoir de guerrière même.
Porque
parce que les luttes, la bataille entre les classes, les pauvres, les riches,
les classes sociales,
les classes sociales va toujours exister, va toujours exister.
Et la participation de la société civile.
Et la participation de la société civile, elle est très importante pour, on va dire, adoucir un peu toute cette situation et cette fermeté, le néofascisme.
Oui.
On peut dire comme ça.
On peut dire comme ça.
Chico, você acha que quer ajoutar alguma coisa a mais que eu
tenho? Não, c'est pour saner les maladies du monde.
Ouais, c'est pour réparer les maladies. Ah, oui. Enfin,
de quoi qui est pour réparer?
C'est un médicament.
A arte,
la les
participation
chansons,
de la société civile.
La participation de la société civile.
Oui. Et au Brésil, est-ce que depuis, ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, Bolsonaro?
4 ans.
4 ans, on a l'impression
2018,
que ça fait plus. Ouais. Il a fait tellement de dégâts.
Il a fait tellement de dégâts que ça paraît que c'était beaucoup plus de temps.
Et est-ce que depuis 4 ans, c'est quand les prochaines élections?
Là, maintenant, en octobre.
D'accord. Est-ce que la société civile, justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience et de plus en plus de gens qui s'engagent, qui résistent?
Há uma grande frustração com Bolsonaro, mesmo entre parte dos seguidores dele.
E aí, ele é uma grande frustração ao Brasil, mesmo avec les gens qui ont été à côté de Bolsonaro, comme les grandes entreprises.
Que com Lula eles ganhavam mais dinheiro e a sociedade era mais organisada e previsível.
L'agriculture, l'agrobusiness. Et tout ça, ils ont compris qu'avec Lula, ils avaient touché, ils gagnaient beaucoup plus que par l'argent, non?
Oui, parce que la société était plus prévisible.
Parce que la société, elle était beaucoup plus prévisible.
Et pourtant, il fait beaucoup pour les grandes multinationales.
Mais l'économie caillou.
Mais l'économie, elle a descendu, elle a tombé.
Elle chute, malgré tous ses
malgré
efforts.
Malgré tous ses efforts.
Oui. Alors, on va revenir un peu à la musique.
Voltamos para a música.
Le premier titre, j'aime beaucoup déjà le premier titre là, de l'album, Flor do Figo.
Flor do Figo.
On n'aura pas le temps de faire toutes les chansons, mais j'en ai relevé, il y en a quand même presque la moitié, je crois. 2, 4, 6, sur lesquels okay. J'aimerais bien que tu nous dises quelques mots.
Commence pour Flor do Figo. On commence pour Flor do Figo.
Oui. OK. La première chanson, A Flor do Figo. Eu compus essa canção.
J'ai écrit cette première chanson quand j'étais dans mon lit, à la maison. Et c'était très surprenant. Et il a compris qu'à partir de cette chanson, c'était une bonne chose, une nouvelle chose. Et qu'il a dit, à partir de là, ça va venir un nouveau disque.
Ah, c'est pour ça que c'est très doux. Ça a été écrit
au lit.
Pour ça
que c'est très doux, bien.
Si.
Parce qu'elle était au lit dans sa maison.
Oui, c'est très serein, c'est très doux,
suave,
ça fait du bien.
Suave, agradable.
Oui, oui.
Alors, la troisième,
Rebolisso.
De quoi ça parle et puis un petit peu le contexte.
Essa canção é uma. É como. Sobre um amor de verão quente.
Cette chanson, c'est un amour d'été très chaud, on va dire caliente.
Torride.
Torride.
Torride, oui.
Tout à fait torride.
Oui, oui. Rebuliço.
Et puis, Amorinha.
Amorinha é uma canção que eu fiz no Uruguai.
C'était une chanson qu'il a écrite en Uruguay. Il était en Uruguay pendant la pandémie, trois mois, non? Três meses.
Antes de vir para cá.
Avant de venir ici pour enregistrer le disque. Il était en Uruguay, il est parti de l'Uruguay direct pour Paris pour enregistrer le disque.
D'accord. É uma canção de amor ao estilo cabo-verdiano, c'est como uma morna.
C'est une chanson d'amour à l'estilo cabo-verdien, quoi, de Cap-Verde.
Alors, Sobre Humano, puisqu'on en a parlé tout à l'heure.
Essa também é uma canção da pandemia, uma canção.
Ouais, c'est une chanson qu'il a écrite aussi pendant la pandémie et où il voit le virus comme une chose plus, qui va beaucoup plus que l'être humain. C'est beaucoup plus fort.
Et que c'est quelque chose qui veio para atingir toute l'humanité.
C'est une chose qui est arrivée pour toucher toute l'humanité. Il n'y a pas de secteur, de choses qui sont...
Oui, tout le
c'est
monde
toute
est...
l'humanité.
Oui. Ensuite, bah, quelques mots de la chanson du titre, le 7.
Xangô Forró Yai.
Xangô Forró Yai é uma canção em ritmo de coco nordestino. É um ritmo do Nordeste.
C'est une chanson avec le rythme typique do Nordeste, do Brésil, do Elivian, que s'appelle Coco Nordestino. Coco, c'est comme la noix de coco.
Oui, mais le rythme. Ah, c'est un rythme.
Ouais.
D'accord.
E ele traz uma forte influência da rumba congolesa.
Il y a une très forte présence de la du Congo, de la rumba congolaise. Il reste très présent à... Desculpa, eu me perdi.
Ele fala sobre a influência da África na vida atual do brasileiro do Nordeste.
Ouais, il parle beaucoup de l'influence de la África sur les gens qui habitent aujourd'hui dans le Nordeste.
De l'influence
de l'Afrique.
É, Xangô.
Xangô, c'est une divinité qui vient d'Afrique. Le forró, c'est
un style musical.
Un style musical qui aussi il y a des influences. Beaucoup qui vient d'Afrique.
Voilà.
Et donc, c'est avec Railema.
Pourquoi Railema?
Ouais, c'est parce que Railema a lui dit une fois que Luiz Gonzaga, c'est le roi du forró, du baião, c'était l'artiste brésilien le plus africain, qu'il a beaucoup plus de racines.
Oui, donc on voit tous les ponts.
Ouais.
Et alors cet album a donc été enregistré à Paris. C'est la première fois ou ça...
Sim, a primeira vez que eu faço disco completamente fora do Brasil.
Ouais, c'est la première fois que je fais un disque complètement dehors du Brésil avec un producteur d'ici, de français.
Uhum. Sim.
La pré-production, on a commencé dans le sud de la France, à Carpentras.
À Carpentras.
No
sud da France. Et
après, on a venu pour finaliser à Paris, au studio Ferber, aux Amours à Prod.
Et alors, est-ce que ça change quelque chose pour un artiste brésilien d'enregistrer son album en France?
Muda tudo.
Ça change tout, parce que quand tu es loin de la maison, vous êtes beaucoup plus libre.
Vous êtes un peu autre personne, ça c'est bon.
Vous êtes quelqu'un d'autre, et ça c'est très bien, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus libre.
Mais l'album, il avait été tout préparé avant, si j'ai bien compris, écrit et composé avant.
Oui, les chansons, elles étaient déjà écrites, préparées au Brésil, en Uruguay et un peu ici dans le sud de la France. Mais les musiciens, la sonorité, tout ça, c'était ici à Paris lors de l'enregistrement.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé et qui seraient importantes de...
Eu penso que é importante resgatarmos de certa forma.
Mas eu penso que c'est très important c'est très important que on revient sur le multiculturalisme avec beaucoup d'amour
et
du respect pour toutes les cultures du monde en fait. C'est pour ça que le disque, l'album s'appelle Vestido de Amor, c'est habillé en amour.
Et c'est vrai que ça a été des belles valeurs qui ont été tellement portées et au Brésil et en France. Donc c'est important de ne pas laisser ces belles idées se refermer, se rétrécir, de continuer à les défendre. Est-ce qu'il y avait déjà eu une histoire avec la France? Tu connaissais la France ou tu venais?
Eu já vim na França.
Oui, je connaissais déjà la France. Je suis venu beaucoup de fois en France, 97, surtout en 87, 98, 99, début des années 2000. Mais c'est la première fois que je reste beaucoup de temps en France et que je reviens plusieurs fois dans une courte période de temps.
Et oui, puisque maintenant la création est liée à la France. Alors on va bien sûr mentionner quelques dates, puisqu'il va y avoir des concerts. Il y a la sortie de l'album au mois de septembre.
23 septembre. Le 23 septembre, il y aura le concert au Porto. Après, fait
le
Lisbonne, à Porto.
Au Portugal.
Au Portugal,
d'accord.
Ouais. Après Lisbonne, oui. Il y aura Madrid, Barcelone, Londres, Paris, Marseille.
Alors Paris, on a la date,
Paris,
je crois,
le
déjà
14 Paris. Octobre, au Café de la Danse.
C'est un bel endroit. Je vais mettre toutes les dates sur les réseaux sociaux et dans le texte qui accompagnera ce podcast.
Merci
un grand, grand merci, Chico. Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir l'honneur de croiser ta route. Et vraiment, je te souhaite une très belle continuation avec cet album, avec les scènes à venir et puis surtout avec le Brésil.
Merci beaucoup, muito obrigado por suas palavras e também por essa conversa tão profunda e necessária.
Ah, merci à toi aussi pour toute cette pour ces rencontres, pour cette conversation. C'était très agréable et c'était nécessaire.
Merci beaucoup.
Merci. Obrigado.
Au revoir.
Obrigado.
Et notre traducteur que l'on remercie beaucoup, Dio Rodriguez.
De nada. De rien.
Merci à tous et bonne merci. Fin de séjour en France.
Merci.
Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sosuite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sosuite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.